Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 25 novembre à Séoul et cette date reste souvent méconnue. Chaque année, elle marque pourtant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes instaurée par les Nations Unies. Son origine se trouve dans l'hommage rendu à trois sœurs de République dominicaine assassinées en 1960 pour avoir résisté à une dictature. Une date d'abord choisie par des militantes féministes, puis officiellement reconnue par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1999. Elle rappelle l'ampleur des violences faites aux femmes et la responsabilité de chaque société pour y faire face. Avec cette idée en tête, nous ouvrons notre édition de ce mardi. Depuis le 21 novembre dernier, l'hiver s'est installé en Corée du Sud et les principales stations de ski ont commencé à ouvrir leur saison. Les skieurs et les snowboardeurs qui attendaient ce moment depuis des semaines ont rejoint les files devant les remontées mécaniques avec une joie difficile à cacher. L'attente durant la montée n'a duré qu'un instant et dès qu'ils ont atteint les pentes enneigées, la course s'est lancée dans un mouvement fluide qui a fait jaillir des cris de joie. De station de Pyeongchang dans le Gangwon, Mona Yongpyeong et Phoenix Park ont été les premiers à accueillir les visiteurs vendredi dernier. Pour leur premier week-end, Mona Yongpyeong a enregistré environ 5500 entrées et Phoenix Park un peu plus de 4100. Cette reprise partielle dans le secteur de Pyeongchang a poussé d'autres domaines skiables de la région, notamment celle de Jongsan et de Hongchon, à accélérer leurs préparatifs en profitant de ce début d'hiver très attendu. Mais notre réalité apparaît déjà et inquiète les acteurs du secteur. Le plaisir de la glisse pourrait devenir plus difficile à vivre dans les prochaines années, car plusieurs sites réduisent leurs activités ou ferment leurs portes. L'association sud-coréenne des stations de ski explique cette situation par plusieurs facteurs. Certaines entreprises rencontrent des difficultés internes, mais la hausse des températures, le recul du nombre d'adeptes et les effets du réchauffement climatique pèsent de plus en plus lourd. Les données de l'association montrent que la température moyenne du mois de janvier à Pyeongchang est passée de moins 8,2 degrés en 2010 à moins 5,2 en 2015, puis à moins 3,2 en 2020. Cette tendance renforce les coûts liés à la neige de culture. À Yongpyeong Resort, les dépenses consacrées à la production de neige sont passées de 10,48 milliards de won durant la saison 2010-2011 à 14,88 milliards en 2019-2020. L'association précise que la situation est similaire dans d'autres centres de sport d'hiver du pays. Le recul du nombre de jeunes pratiquants et l'évolution des loisirs accentuent également les difficultés économiques. L'association souligne que le réchauffement climatique augmente les coûts de neige artificielle, retarde l'ouverture des pistes et réduit le nombre de jours d'exploitation. Elle ajoute que cette dynamique entraîne une baisse des recettes et une hausse des dépenses, ce qui fragilise les stations saison après saison. Manger du pain et du lait à la place d'un vrai repas, ça ne me dérange pas. Cette remarque revient parfois quand les agents contractuels de la restauration scolaire se mettent en grève. Certains y voient une prise en otage des élèves, mais d'autres pensent autrement. Ils estiment que quelques jours d'inconfort comptent moins que de meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui préparent les repas. Deux collégiens de l'arrondissement Dongpyeong à Séoul suivent ces débats de près. Lee Yoon-so et Moon Sang-ho, journalistes pour le média jeunesse, ont expliqué le 23 novembre qu'ils avaient interrogé les élèves avant la grève nationale des personnels de cantine non titulaires les 20 et 21 novembre. Ils s'attendaient à des avis partagés, mais ont été surpris de voir que 93% des 504 répondants jugeaient la grève nécessaire. Lee Yoon-so s'attendait à davantage de critiques, car elle avait souvent entendu ses camarades se plaindre des repas. Les réactions des élèves la surprise, puisqu'ils ont abordé la question avec un réel sérieux. Beaucoup disent connaître la réalité des cuisines scolaires et mentionnent le manque de main-d'œuvre, des salaires trop bas et les risques d'accidents. Pour elles, l'enjeu principal tient à la situation des équipes de cantine qui manquent de pauses et déjeunent en quelques minutes. Elles souhaitent que le ministère et les autorités locales améliorent rapidement leurs conditions. Ces personnels dénoncent d'ailleurs des tâches physiquement éprouvantes et des salaires faibles. Une enquête du Syndicat national des travailleurs des établissements scolaires, menée auprès de 6 849 personnes, montre que 60,5% préparent entre 100 et 150 repas chacun et que 92,1% ont été soignés pour des troubles articulaires et musculaires au cours de l'année écoulée. L'Alliance des syndicats lance une première grève les 20 et 21 novembre et prévoit un nouveau mouvement les 4 et 5 décembre. Elle réclame une hausse du salaire de base, une solution pour l'absence de rémunération pendant les vacances et une réforme de la loi sur la restauration afin d'améliorer l'ensemble des conditions et de renforcer la sécurité du personnel. Sur le marché du logement en Corée du Sud, où l'offre de Chonsei, un système de location fondé sur un dépôt très élevé sans loyer, se fait de plus en plus rare, le rapport de force se réorganise en faveur des propriétaires. Dans ce climat, l'idée de créer une procédure de vérification préalable pour contrôler la solvabilité et d'éventuels antécédents judiciaires des futurs locataires est apparue sur la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale et alimente la controverse. Pour beaucoup, cette demande traduit le retour de bâton des propriétaires face aux politiques de protection des locataires renforcées ces dernières années. En effet, un texte intitulé « Demande d'instauration d'un dispositif d'entretien avec les locataires pour prévenir les dommages causés par des locataires malveillants » est en cours de récolte de signatures des citoyens. Il a déjà dépassé 1000 soutiens et s'il franchit 50 000, la commission permanente devra l'examiner. L'auteur de la demande affirme qu'il est impossible de savoir qui va réellement entrer dans son logement et soutient que les propriétaires ont eux aussi le droit de vérifier la situation financière et le passé judiciaire des locataires. Il ajoute que dans certains pays dits avancés, l'examen de dossiers et une interview préliminaire sont une pratique courante. Sur le terrain, ces pratiques émergent déjà. Récemment, un message publié sur un forum en ligne a suscité de nombreuses réactions. Un internaute y raconte qu'un propriétaire exige un entretien de famille pour un logement en Chonsei. Celui-ci refuse les jeunes enfants, les animaux de compagnie ou même les trous dans les murs pour accrocher des objets et d'y vouloir vérifier la compatibilité des candidats en rencontrant tout le foyer. Aujourd'hui, le gouvernement propose un système de consultation des informations sur les bailleurs à partir des données de la Korea Housing and Urban Guarantee Corporation, tandis que Séoul publie un rapport de risque incluant la solvabilité du bailleur, le nombre de logements détenus et la fréquence de ces changements d'adresse. L'ensemble nourrit un certain ressentiment chez les propriétaires qui disent avoir de plus en plus l'impression d'être les seuls à faire l'objet d'un contrôle. À l'étranger, la vérification mutuelle est fréquente. Aux États-Unis, le tenant screening impose un score de crédit, preuve de revenus, casier judiciaire et lettre de recommandation. En Allemagne, les candidats remplissent un document de self-disclosure détaillant leur situation personnelle et financière. En France, la remise des fiches de paie et des documents du garant constitue entre autres la base du dossier et une rencontre préalable est parfois organisée. Dans ce contexte, le fait que la Corée du Sud mise essentiellement sur la transparence du côté des propriétaires apparaît comme une exception. Les spécialistes jugent peu probable que le principe d'un entretien obligatoire avec les locataires soit réellement inscrit dans la loi. Ils estiment toutefois que le débat autour de la discrimination inversée dénoncée par les propriétaires pourrait encore prendre de l'ampleur. Écoutons à présent une chanson de circonstance. Voici Your Home de Soomin.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 25 novembre 2025 vous est présentée par Maxime Lalo. L'administration du développement rural RDA a précisé qu'il comptait renforcer AI-ISAC pour bâtir sous le gouvernement de Lee Jae-myung une infrastructure capable d'augmenter de 20% le revenu moyen des exploitations. Ainsi, celui qui est actuellement un simple chatbot de conseil technique devrait devenir un service d'IA agricole disponible à tout moment auquel les agriculteurs pourront demander aussi bien l'élaboration de leur plan de culture annuel que leur travail à réaliser dans la journée. Il devrait être connecté à un grand modèle de langage et à Hyper Clova X de Naver afin qu'il puisse répondre aux questions techniques sur les cultures. Le service intégrera 3 milliards de données structurées ainsi que des photos et des vidéos. Les données de haute qualité accumulées au fil des ans seront intégrées dans le système afin de fournir de manière fluide toutes les informations nécessaires aux agriculteurs. Planification annuelle, alerte en cas d'intempéries, prévision de déplacement des nuisibles ou encore choix du moment optimal pour la commercialisation. Le 19 novembre, l'organisation a présenté sa stratégie de convergence entre intelligence artificielle et sciences agricoles, avec l'ambition d'accélérer l'adoption de l'IA dans le secteur afin de répondre aux défis du changement climatique, du vieillissement de la main-d'œuvre et de la disparition progressive des zones rurales. Cette stratégie vise également à réduire de 20% les risques liés aux travaux et raccourcir de 30% les délais de développement et de diffusion des technologies. L'intégration de l'IA générative permettra d'offrir des recommandations personnalisées, adaptées à la situation économique de chaque ménage agricole, avec pour objectif de réduire de 5% les coûts de gestion. Après une phase pilote cette année, le service sera déployé l'an prochain auprès de 1000 exploitations avant sa généralisation. Les secteurs des serres et de l'élevage bénéficieront eux aussi de nouveaux outils. La plateforme Alaunchil, dotée d'un modèle d'optimisation climatique pour les serres, sera commercialisée dès l'an prochain. Dans les élevages, les solutions intégrées comprendront désormais non seulement le suivi de la productivité, mais aussi des dispositifs de réduction des odeurs. Le diagnostic phytosanitaire via smartphone, quant à lui, sera étendu d'ici 2029 à 82 cultures et 744 espèces pour permettre des interventions plus rapides. Pour mettre en œuvre ce projet, la RDA dispose d'un budget de 154,1 milliards de won, englobant les crédits de R&D et ceux liés aux solutions d'agriculture intelligente. À l'ère de l'IA, la question n'est plus seulement de développer des technologies, mais de savoir comment elles transforment réellement le terrain, a déclaré Yu Sung Don, le directeur de l'administration. Il affirme vouloir obtenir des résultats que les agriculteurs pourront réellement constater et engager aux côtés des ministères et du secteur privé une véritable transition du monde agricole. À 26 ans, le français Kevin Gornet regardait des compétitions d'e-sport en ligne lorsqu'il est tombé un soir sous le charme du joueur sud-coréen Faker. Ce premier coup de cœur l'a bientôt amené à vouloir vivre la culture coréenne. L'année dernière, il a embarqué pour Séoul avec un visa vacances-travail et a commencé à occuper un poste d'assistant dans une agence de marketing international. Après le boulot, aller jouer dans un cybercafé et manger un bol de ramyeon fait désormais partie de mon quotidien, a-t-il raconté en souriant lors d'un échange avec le Seoul Economic Daily. Ce phénomène reflète une évolution plus large du tourisme en Corée du Sud. Le séjour et le quotidien prennent peu à peu le pas sur le shopping, longtemps moteur des visites étrangères. La popularité du K-content s'étend aujourd'hui à la vie de tous les jours, comme la gastronomie, les soins, le sport, la beauté, au point que certains souhaitent vivre comme un local. Selon le ministère de la Justice, le nombre d'étrangers en séjour longue durée dans le pays, c'est-à-dire des personnes enregistrées auprès des autorités et restant plus de 90 jours, est passé d'environ 1,57 million en 2021 à un peu plus de 2,04 millions l'an dernier. Pour beaucoup, cette hausse traduit l'idée que la Corée du Sud est devenue un pays où l'on a envie de vivre au moins une fois. C'est le cas de Rono Kaldma, 35 ans, originaire d'Estonie. Après avoir découvert le film Castaway on the Moon, il a commencé à apprendre le coréen, puis est venu cette année en vacances-travail. La Corée est connue pour sa sécurité et son système de transport très pratique. Et comme la langue m'est devenue plus familière, je me suis peu à peu mis à vivre comme les Sud-Coréens. Je passe à la salle de sport, puis je mange mon blanc de poulet comme tout le monde ici, a-t-il expliqué. L'essor de la demande de séjour prolongé fait également émerger de nouveaux types d'hébergements, en particulier les Goshiwon, logements économiques et très compacts, à l'origine conçus pour les étudiants préparant des examens, séduisent désormais les étrangers de 20 à 30 ans grâce à leur loyer bas, l'absence de dépôt et des formalités réduites. Dans les quartiers de Goshiwon à Séoul, les panneaux en anglais ou en chinois sont de plus en plus fréquents et les contenus sur YouTube et ou TikTok consacrés à Séoul Goshiwon se multiplient. Pour les spécialistes, cette tendance devrait se poursuivre. Le tourisme, initialement centré sur les fans de K-pop et les lieux emblématiques, s'étend désormais aux espaces du quotidien. Sous l'effet du K-content, la Corée est devenue un pays familier à l'échelle mondiale et l'intérêt se déplace vers les lieux typiquement coréens au-delà des circuits touristiques classiques. Dans un entretien accordé au quotidien économique local, Chang Lan-soo, professeur du département de tourisme de l'université Hanyang, a estimé que cette dynamique pourrait avoir des effets positifs sur la consommation. Plus les expériences de séjour longue durée se diffusent, plus les retombées économiques se renforcent, a-t-il précisé. La Corée n'est plus seulement une destination touristique, elle commence à être perçue comme un véritable espace de vie. En Corée du Sud, le Suneung, examen national d'entrée à l'université, vient de s'achever. Et une question revient immédiatement. Que veulent faire les lycéens après cette épreuve décisive? Selon une enquête récente, près de 4 candidats sur 10 répondent qu'ils aimeraient d'abord trouver un petit boulot. Mais sur le terrain, les atteintes aux droits des jeunes employés restent fréquentes, en particulier en matière d'horaire. La loi interdit aux mineurs de travailler après 22 heures, pourtant cette règle continue d'être largement ignorée. Pour prévenir ces situations, le Seoul Metropolitan Office of Education s'est associé à l'Association des avocats de Séoul afin de proposer, du 19 novembre au 19 décembre, un programme intitulé « Un cours de droit du travail animé par un avocat » destiné aux élèves de terminale des lycées de la ville. L'idée est d'aider les lycéens à un moment où les expériences professionnelles se multiplient après l'examen, en leur donnant les connaissances indispensables pour comprendre la valeur du travail et connaître leurs droits. Avec l'appui de juristes spécialistes, ce programme leur permet d'aborder ces notions de façon simple et concrète. Les avocats se rendent directement dans les établissements pour expliquer, à partir de situations concrètes, les notions fondamentales que tout jeune devrait connaître. Les droits fondamentaux des salariés, la rédaction d'un contrat, le fonctionnement du salaire minimum ou encore la prévention des accidents professionnels. Dans les établissements scolaires, les demandes pour renforcer une éducation réellement utile dans ce domaine ne cessent de grandir afin d'éviter que les jeunes ne subissent des traitements injustes ou ne se retrouvent pris dans des litiges pendant leur petit boulot. Pour répondre à ces attentes, l'Office de l'éducation coordonne l'ensemble du projet, tandis que l'Association des avocats fournit un groupe d'intervenants spécialisés. Cette année, 50 lycées de la capitale y prendront part. Avec cette initiative, l'administration entend renforcer de manière anticipée l'éducation aux droits des jeunes employés et étendre ce modèle en partenariat avec les professionnels. Nous espérons que cette rencontre aidera les élèves à mieux comprendre l'importance du travail et à faire respecter leurs droits lorsqu'ils auront un petit boulot, a déclaré Chang Eun-sik, surintendant de l'éducation de Séoul. Il a précisé qu'il continuerait à soutenir cet effort afin que les jeunes travaillent dans un environnement plus sûr et plus respectueux. Et juste avant de passer le micro à Valentine Philippe pour Carte Postale, je vous propose d'écouter Part-Time Job de Gilly Boy.
Bienvenue à Itaewon, un quartier vibrant de Séoul où les cultures se croisent et où l'agitation urbaine est omniprésente. Ici, chaque rue offre une expérience différente, boutiques colorées, restaurants internationaux et rues animées. Mais au cœur de cette agitation, il existe un havre de paix, un lieu où le silence est roi. Situé à quelques pas de la rue principale d'Itaewon, vous trouverez un café offrant une expérience unique aux visiteurs en quête de tranquillité. Dès que vous franchissez le seuil du café, le contraste est saisissant. Le bruit de la ville s'estompe immédiatement, remplacé par une ambiance feutrée et apaisante. Et la décoration minimaliste crée une atmosphère propice à la concentration et à la détente. Ici, chaque détail, du choix des meubles à la disposition, est pensé pour favoriser le calme et la sérénité. Le concept de ce café est simple, mais puissant. Offrir un espace dédié aux personnes introverties, aux lecteurs, aux écrivains et à tous ceux qui souhaitent échapper à l'agitation quotidienne. Pas de musique forte, pas de conversation animée, pas de téléphone qui sonne, juste le doux murmure des pages qui se tournent, le cliquetis des claviers d'ordinateur et les conversations à voix basse, presque comme un chuchotement partagé entre habitués. Les tables sont espacées, offrant une certaine intimité. Certaines sont équipées de prises électriques pour ceux qui souhaitent travailler sur leur ordinateur portable, écrire ou dessiner. Une terrasse agréable permet de profiter de la lumière naturelle tout en lisant ou méditant. Des coins plus isolés permettent même de s'installer avec un carnet, un livre ou simplement penser. À l'abri du monde extérieur. Le menu propose une sélection de cafés de spécialité, de thé raffiné et de pâtisserie maison. Chaque boisson est préparée avec soin et les arômes qui s'en dégagent semblent prolonger le moment de détente. Les clients sont encouragés à prendre leur temps, à savourer chaque gorgée et à apprécier l'art de ralentir, un luxe rare dans le rythme effréné de Séoul. Ce café a été créé par un passionné qui souhaitait offrir aux citadins un refuge loin du tumulte quotidien. Inspiré par des cafés silencieux que l'on trouve dans certaines grandes villes du monde, il a imaginé un espace où le nom vient pas seulement pour boire un café, mais pour vivre une expérience. Chaque détail, de l'odeur du café fraîchement moulu au choix des matériaux naturels pour le mobilier, a été pensé pour éveiller les sens tout en favorisant le calme intérieur. Les clients repartent souvent avec un sentiment de légèreté et de clarté d'esprit, comme si quelques heures passées ici avaient permis de recharger leur énergie mentale. Ce qui rend ce café si spécial, c'est la possibilité de se déconnecter du monde extérieur. Même quelques minutes passées ici suffisent pour se recentrer, apaiser son esprit et retrouver une certaine clarté. C'est un lieu où l'on peut être seul sans se sentir isolé. Un endroit où le silence devient une forme de communication. Alors si vous êtes à Itaewon et que vous cherchez un endroit pour vous ressourcer, pour vous offrir un moment de calme loin de l'agitation urbaine, je vous recommande vivement de visiter ce café ou ailleurs dans le même concept pour vivre une expérience sensorielle unique.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Ha Jin-ho à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.